Actu SF, les podcasts.
On va y aller doucement. Tout d'abord, merci à vous tous d'être aussi nombreux au petit matin blême, comme ça, pour une conférence aujourd'hui, enfin une table ronde sur les insectes sociaux et leur rapport aux sociétés humaines. Donc mes deux invités aujourd'hui sont Andoris, à ma droite, que vous connaissez probablement comme scénariste de bande dessinée principalement, je crois, mais qui est aussi novelliste, qui est aussi romancière, donc il y a une activité assez large dans le champ de la science-fiction et de la fantasy, et qui par ailleurs, dans le civil, est professeur de sciences de la vie et de la terre, donc aussi une bonne connaisseuse de ces questions. Et puis à l'extrême droite, Audrey Dussutour, qui est, elle, chercheure au CNRS, spécialiste de plein de choses, à commencer bien sûr par les fourmis qui vont beaucoup nous intéresser pendant cette table ronde, j'imagine, mais aussi de blobs et de tas de bestioles un peu étranges à 9h du matin. Audrey, est-ce que je te laisse commencer pour nous faire quelques rappels de base sur ce qu'on appelle les insectes sociaux, s'ils sont...
Ok. Bonjour à tous, merci d'être venus. J'avoue que je suis assez surprise, je pensais qu'il n'y aurait personne à 9h. C'est samedi quand même. Je vais commencer par vous définir ce que c'est, ce qu'on appelle les insectes sociaux. Et en réalité, on devrait appeler ça des insectes sociaux, parce qu'ils sont super sociaux. Alors, il y a trois caractéristiques qui caractérisent les insectes sociaux. La première chose qui va les différencier de nous, c'est ce qu'on appelle la spécialisation de la reproduction. C'est-à-dire que dans des colonies de fourmis ou des colonies d'abeilles, on va avoir un seul individu ou peut-être parfois plusieurs qui vont prendre en charge la reproduction. Et les autres individus de la société vont être la plupart du temps stériles. Et vont faire les menus travaux de construction du nid, aller chercher la nourriture, s'occuper de jeunes. La deuxième caractéristique, c'est le chevauchement des générations. Dans une colonie de fourmis, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de générations de fourmis à l'intérieur de la société. Et la troisième, c'est l'élevage coopératif des jeunes. En réalité, une reine de fourmis, on va casser la rumeur, elle ne fait rien que pondre toute la journée. C'est tout ce qu'elle va faire, elle va pondre des œufs, et c'est ses filles qui vont s'occuper de ces œufs et ces jeunes. Donc c'est les trois caractéristiques de la socialité, de l'e-socialité, spécialisation de la reproduction, recouvrement des générations et coopération dans l'élevage des jeunes. Donc déjà, vous voyez un petit peu... Et alors, quand on parle d'une société d'une fourmi, ce n'est pas comme la société humaine. Une société de fourmis, c'est une famille de fourmis. Dans un nid, vous allez avoir la plupart du temps une mère qui va donner en fait des générations et des générations de filles. Alors, où sont les mâles dans ces sociétés d'insectes? Ils existent, hein, je vous rassure. Quoique chez certaines fourmis, il n'y a pas de mâles. Mais la plupart du temps, il y a des mâles, mais ils ont une durée de vie relativement courte. Ils sont là juste pour la reproduction et ils meurent la plupart du temps après l'accouplement, soit parce qu'ils laissent leur partie génitale dans la femelle. Et donc, quand ils se décrochent, ben, voilà, ils meurent. Soit chez les abeilles parce que le mâle n'a plus le droit de revenir à la ruche. Il est mis dehors une fois que la reproduction est donc il meurt de fait. Donc en fait, le destin des mâles dans les sociétés d'insectes est assez... Mais pas chez toutes les sociétés d'insectes, je vous rassure. Il y a une exception, les termites. Chez les termites, on va retrouver des mâles et des femelles parce qu'il n'y a pas qu'une reine, il y a la reine et le roi. Mais il y a aussi une spécialisation de la reproduction avec un couple reproducteur qui va donner naissance à toute la colonie des termites. Voilà pour une petite introduction des insectes sociaux.
Tu as parlé des fourmis et des termites. On a beaucoup d'autres types ou c'est assez...
Alors, les principaux insectes sociaux, ça va être donc, les termites, qui n'ont rien à voir en fait, au niveau phylogénétique avec les fourmis. Les fourmis sont proches des abeilles, des guêpes. Donc, on va avoir les sociétés de guêpes aussi. Chez les insectes, après, on a des insectes qui vont être ce qu'on appelle pré-sociaux. Qui ne sont pas tout à fait sociaux, comme par exemple les cafards, où on va avoir des phénomènes de coopération chez les cafards, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des insectes sociaux. Et on va avoir par exemple ce qu'on appelle des trips aussi, qui vivent sous l'écorce des arbres, qui sont aussi considérés comme presque sociales. Mais vraiment, quand on dit insectes sociaux en général, c'est les hyménoptères sociaux, donc guêpes, abeilles, fourmis et les termites.
Andoris, je suis tenté de te lancer sur l'autre terme de notre titre. Est-ce que pour toi, on parle de société d'insectes, mais est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre les sociétés d'insectes et les sociétés humaines? Est-ce que tu peux imaginer qu'on prenne modèle de l'un pour l'autre?
Alors, il n'y a pas à proprement parler de rapport entre la société humaine et les sociétés d'insectes. Là, on vient d'avoir une définition très complète de ce qu'est une société d'insectes, et je pense ne surprendre personne en disant qu'on ne fonctionne pas comme ça.
Pas tous, du moins.
Par contre, effectivement, la science-fiction, elle, a parfois imaginé ce que ça donnerait de faire fonctionner une société avec un déterminisme lié à une modification au niveau de l'embryogenèse. La modification des embryons dans le meilleur des mondes a pour but de créer des castes et de faire en sorte que certains individus non voués à reproduction, du coup, s'occupent des tâches les plus basses. Pour ceux qui n'ont pas lu Le meilleur des mondes, c'est une société où l'intégralité des individus est produite en usine et où en fait on va soumettre l'embryon à un certain nombre de traitements pour avoir des castes alpha, bêta, etc. jusqu'à epsilon, en sachant que les epsilon ont subi un environnement extrêmement néfaste pendant l'embryogenèse de façon à les rendre, on va dire, moins intelligent que les autres et se contentant de rôles subalternes. Et donc, il y a des epsilon très contents, par exemple, d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur pour faire monter les gens de plusieurs étages ou descendre les gens de plusieurs étages. Moi, ce n'est pas une société qui me fait rêver, mais la science-fiction a déjà... C'est déjà posé la question en fait de et si on transformait notre société en s'inspirant de ce qui existe notamment chez les insectes et donc du coup dans ces textes de science-fiction on peut voir, alors c'est de la science-fiction donc assez souvent c'est aussi une critique de ces sociétés, mais on peut voir ce que ça donnerait et voilà, de fait moi ça me ferait moyennement rêver.
Audrey, est-ce qu'il y a des aspects plus positifs à ces sociétés d'insectes?
Alors ça marche bien, donc c'est quand même positif. Ce sont des sociétés, alors les sociétés de fourmis, c'est 200 millions d'années, donc je pense que ça a bien prouvé leur succès quand même. Alors c'est des sociétés, il faut savoir qu'ils fonctionnent, mais vraiment pas du tout comme les nôtres, parce que nous c'est centralisé, on a la plupart du temps et presque tout le temps un pouvoir, c'est assez pyramidal hein, dans une entreprise, ou etc., on a toujours un chef. Chez les fourmis, il n'y a pas de chef. C'est anarchique, c'est des sociétés complètement anarchiques. Il n'y a personne qui décide rien. Donc la reine ne décide rien. Chacun a une tâche et cette tâche, elle est même extrêmement flexible. Chez les fourmis, par exemple, ce qu'on appelle la division du travail, le fait qu'on va avoir des fourmis qui vont sortir du nid pour aller chercher de la nourriture, des fourmis qui vont rester au nid pour s'occuper des jeunes. Ce n'est pas qu'elles sont spécialisées dans cette tâche, elles sont toutes capables de faire toutes les tâches, mais elles ne sont pas capables de les faire plus ou moins bien. Donc il faut imaginer que c'est un système qu'on appelle par seuil de réponse. Alors pour une métaphore, si vous vivez en colocation et qu'il y a quelqu'un qui doit faire du ménage, vous allez voir, vous n'avez pas les mêmes seuils de réponse à la saleté, et il y en a toujours un qui va faire le ménage en premier. Eh bien, chez les fourmis, c'est exactement ça. Il y en a une qui est un peu plus fine que les autres et du coup qui va sortir et s'occuper de la nourriture. Il y en a une qui va être un petit peu plus sensible, par exemple, aux cris des larves et qui va s'occuper des larves. Mais si on fait une expérience en laboratoire, par exemple, chez une espèce qui s'appelle Phaedolae megacephala, donc c'est une espèce où on va avoir des toutes petites fourmis et des soldats. Ce qu'on appelle des soldats, mais c'est toujours des filles. Donc, c'est des grosses fourmis. Alors, la plupart du temps, les soldats ne s'occupent pas du tout des jeunes. Mais si vous enlevez toutes les petites fourmis de la colonie, bon, ben, ils vont s'en occuper mal, mais ils vont le faire. Donc, en fait, il y a une flexibilité de la division du travail chez les fourmis qu'on n'a pas chez nous. C'est vraiment un système qui, du coup, peut absorber les crises beaucoup plus facilement parce que c'est extrêmement flexible. Et il y a aussi une autre rumeur urbaine qu'on a beaucoup entendue, la fourmi travailleuse. Alors, la fourmi travailleuse, c'est faux. Parce qu'il y a au moins 30 à 40% dans une colonie de fourmis qui font rien, mais strictement rien. Et ça ne pose pas de problème à la société. Alors elles sont enfermées dans des chambres et souvent, la plupart du temps, elles agissent comme des réserves. C'est-à-dire que si un jour, il y a un accident, une inondation de la colonie, elles vont prendre en fait, le relais des fourmis qui étaient en train de travailler, qui seront décédées suite à une catastrophe. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment ce système d'une fourmi qui va travailler tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de fourmis à l'intérieur de la colonie qui font rien, par exemple. Donc c'est vraiment une société qui est extrêmement différente.
Et extrêmement robuste, apparemment, d'après ce que tu disais.
Extrêmement robuste. Et alors, elles tirent leur succès d'une très forte coopération. Donc en fait, la fourmi est extrêmement altruiste. Et elle va se sacrifier pour la colonie. Et elles ont trouvé des systèmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'était l'année dernière au Texas, il y a eu énormément d'inondations. Et on a vu ces fourmis, qu'on appelle fourmis de feu, des Soenopsis, qui sont des fourmis invasives, former ces grands radeaux. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, en fait, les colonies étaient complètement inondées. Et au lieu de. Elles ne sont pas mortes, en fait. Elles ont formé des radeaux géants. Et c'était des colonies qui vivaient sur l'eau. Et donc, bien sûr, les fourmis, comme nous, ça ne sait pas très bien nager. Et en fait, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles alternaient de position entre sous le radeau et sur le radeau. Et c'était comme une espèce de tapis roulant comme ça, qui vivait sur les rivières. Elles ont pu vivre comme ça des journées entières jusqu'à ce que l'inondation baisse et se réinstaller. Donc en fait, ce qui fait vraiment le succès des fourmis, c'est cette forte coopération et cette forte flexibilité.
Tu parlais de sacrifice. Pour moi, c'est quelque chose qui, enfin, je suis un total béotien, mais suppose quelque chose qui ressemble à un sens de l'individualité, un sens du soi. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à un sens de l'individu? Est-ce que ça a un sens simplement de parler d'individu chez les fourmis?
Alors, il y a quand même une individualité. Les fourmis ne sont pas des robots. Alors, bien sûr, on a l'impression que beaucoup de leurs comportements sont innés, mais il y a quand même le rôle de l'expérience. Elles sont capables d'apprendre. Donc, clairement, il y a des différences. Si vous regardez, il va y avoir des fourmis qui vont être plus agressives que d'autres. Il y a des fourmis qui vont être des bons scouts, ce qu'on appelle. Alors, par exemple, chez les fourmis, chez beaucoup d'espèces de fourmis, quand elles vont chercher de la nourriture, elles partent, elles reviennent au nid en laissant une trace chimique, comme le petit poussé. Et donc, en fait, les autres fourmis vont suivre cette trace et vont trouver de la nourriture. Et bien, il y a des fourmis, par exemple, qui ne suivent pas la trace. On ne s'explique pas pourquoi. Elles n'ont pas envie de suivre la trace, mais elles servent à quelque chose, ces fourmis, parce qu'elles vont explorer en dehors de cette piste chimique et peut-être trouver une source de nourriture bien meilleure et recruter ensuite leurs congénères. Donc, on n'a pas, en effet, on a une individualité quand même chez les fourmis. Ce ne sont pas, ouais, c'est pas des petits robots.
Bon, Doris, je reviens sur l'aspect science-fiction. Tu parlais de fiction présentant quelque chose d'assez apocalyptique, effectivement présentant les fourmis ou les insectes comme des anti-modèles. Est-ce qu'on a aussi des exemples de fiction présentant ces modèles de façon positive, présentant des sociétés humaines ou en tout cas évoluées à partir de modèles de type insectes sociaux?
Alors, il n'y en a pas qui me viennent en tête, là. Les modèles qu'on va avoir sont des modèles aliens, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on va voir des sociétés fonctionnelles de ce type-là, ça va être des sociétés extraterrestres. L'humain va entrer en contact avec ces sociétés, mais chez notre espèce, pas vraiment. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est un modèle qui est très utilisé pour les sociétés extraterrestres, tout simplement parce qu'il y a une forme de fascination, c'est-à-dire que on n'est pas complètement stupide, j'ai envie de dire, quand on voit une société d'insectes, on voit bien que ça marche. Enfin, on voit bien que ça fonctionne. Il y a une sorte de fascination pour justement cette famille de centaines de milliers d'individus qui répond comme une seule volonté et qui est juste, on parlait donc dans la coopération, c'est il y a une espèce de fascination tout simplement parce que globalement à l'échelle de l'humanité on n'est pas trop foutu de faire la même chose, donc du coup cette fascination elle est légitime et c'est, je trouve ça normal que la science-fiction s'en soit emparée pour essayer de construire des modèles de société alternatifs aliens, mais donc du coup en parlant d'aliens hein, le film voilà c'est un modèle de construction de société qui ressemble à ça effectivement qui est très inspiré. Puis alors donc du coup j'ai appris que c'était.
Je sais pas, mais en réalité si vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu une larve de libellule, mais c'est le sosie d'alien quoi. Avec le petit masque derrière, je crois que les réalisateurs sont peut-être inspirés de ce genre d'insectes. Les insectes ont toujours inspiré beaucoup quand même des films de science-fiction parce que ils sont quand même des formes un petit peu bizarres. Et c'est vrai que même les fourmis, elles ont fait les premiers, tout premier. Je sais pas si vous avez vu le film Them, qui est des fourmis géantes comme ça. Elles ont toujours quand même, elles ont cette on a cette fascination parce qu'on a vraiment l'impression d'une société extrêmement ordonnée. Donc ça, c'est plutôt nous qui projetons des fantasmes sur les fourmis, hein, parce que c'est pas ordonné. Hein, c'est un petit peu le chaos, la colonie, mais ça marche. Parce que le chaos, ça peut aussi marcher. Et c'est vraiment, je veux vraiment insister sur ça, ce sont des sociétés, on n'est pas du tout dans le même type de fonctionnement. Je ne sais pas si on pourrait fonctionner comme ça.
En fait, moi, ce que je retiens surtout, c'est que ce n'est pas des sociétés d'individus, c'est une société familiale. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, quand on revient à l'axe familial, quand on revient au sein de la famille, on va trouver, je pense que l'histoire en est pleine, on va trouver cette capacité de sacrifice, cette capacité d'organisation, cette répartition des tâches non verbales, hein, parce que finalement, ça se fait parfois sans communiquer, parfois en communiquant, mais voilà, c'est voilà, les individus adultes, en tout cas de nos sociétés familiales, de nos je cherche mon mot, je le trouve pas, de nos groupes familiaux, se répartissent les tâches pour venir.
C'est ça. Je crois que quand utilisant le mot société de fourmis, les gens font un espèce d'abus de langage, parce qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment des familles, parce que entre deux colonies de fourmis. C'est pas du tout. Elles sont plutôt belliqueuses avec la colonie d'à côté. Et là, il va y avoir des guerres entre colonies de fourmis. Donc, en fait, c'est vraiment plutôt au sein d'une colonie qui va partager finalement un patrimoine génétique, même si la reine peut se reproduire avec plusieurs mâles. Et donc, ses filles vont avoir un patrimoine génétique très varié. Il y a quand même une espèce d'uniformité génétique. C'est vraiment une famille. Alors, c'est des grandes familles, parce qu'il faut vous donner un exemple. Par exemple, chez Dorylus, c'est une fourmi légionnaire africaine. Une reine va générer plus de 20 millions de fourmis. Elle va avoir 20 millions d'enfants. Donc, c'est la population de la Belgique, hein, je ne sais pas si vous imaginez, dans un seul nid. Et elle est toute seule, hein, elle va les pondre. Et alors, chez les fourmis, il faut savoir qu'on ne naît pas reine. En réalité, quand une fourmi fait des larves, des bébés, des œufs, c'est la nourriture qu'elle va recevoir qui vont lui donner en fait son avenir. Plus une fourmi est nourrie, et c'est un peu comme chez les abeilles, quand les larves d'abeilles sont nourries avec de la gelée royale, ça va donner des reines. Si elles sont nourries plutôt avec du pollen et du nectar, ça va donner des ouvrières. Mais chez les fourmis, c'est la même chose. Là, c'est vraiment une différence entre dans la qualité de la nourriture que la larve va recevoir qui va dire si elle devient reine ou si elle devient ouvrière. Donc il n'y a pas vraiment de choix. Et par contre, une fois qu'elles sont embarquées dans ce chemin de vie, reine ou ouvrière, tout est bouleversé. Une fourmi qui est stérile, une ouvrière, ça va vivre deux ou trois mois dans la nature. Une reine, donc avec le même patrimoine génétique, juste elle a reçu de la nourriture différente, elle va vivre jusqu'à 25 ans. Donc il faut imaginer que c'est comme si vous aviez des clones et juste en les nourrissant différemment. Et c'est donc des facteurs épigénétiques qui vont rentrer en jeu, qui vont faire que vous allez avoir un chemin de vie complètement différent. Donc si on revient chez ces fourmis légionnaires africaines, vous avez une reine donc, qui va pouvoir générer plus de 20 millions d'individus au cours d'une vie. Et c'est des fourmis qui vont se déplacer tout le temps. Mais si jamais elles rencontrent une autre famille, là c'est la guerre complète, la guerre ouverte. Donc vraiment, quand on dit société d'insectes sociaux, on devrait dire famille d'insectes sociaux plutôt.
Oui, alors moi, du coup, ça me suscite deux réactions. C'est-à-dire qu'une famille dans laquelle on détermine au moment du nourrissage des petits, toi, tu vas évoluer comme ça, toi, tu vas évoluer comme ça. Et notamment, le statut de reine, c'est le statut par défaut. Hein. C'est le statut d'ouvrière, etc., en tout cas chez les abeilles, qui est contraint par la nourriture. Moi, ça me... Voilà, c'est en tant qu'humain, on n'imagine pas projeter ça sur notre espèce, parce que ça voudrait dire qu'on contraindrait dans son développement les enfants pour qu'ils soient stériles, pour que ce soit de bons ouvriers, pour qu'ils vivent moins longtemps, beaucoup moins longtemps, et qu'ils servent le bien commun. Bon, c'est très, très difficile à envisager pour nous, en fait, ce genre de système.
Alors là, c'est pareil, c'est un choix, mais le choix est fait par les ouvrières, parce que la reine ne s'occupe pas de ses petits, c'est pas elle qui choisit. La seule chose que la reine choisit, c'est le sexe de l'œuf qu'elle va porter. Soit c'est elle peut choisir si ce sera un mâle ou une femelle. C'est la chose qu'elle peut choisir. Mais une fois qu'elle a fait une femelle, c'est les ouvrières qui vont choisir cette fourmi. Larve va devenir une ouvrière ou une reine. Et c'est en fonction des saisons et de l'apport alimentaire. Donc, par exemple, les reines ne vont pas être produites maintenant, là, c'est parce qu'il commence à faire froid. Il y a très peu de nourriture qui rentre dans la colonie. C'est plutôt le temps de faire des réserves. Mais elles vont être produites au printemps quand on a vraiment la nourriture à foison. Alors, comment les ouvrières choisissent qui devient reine et qui devient ouvrière, on ne le sait pas à l'heure actuelle. Les scientifiques sont incapables de déterminer comment les ouvrières, en fait, déterminent quelle proportion elles vont allouer au travail et quelle proportion elles vont allouer à la reproduction. On ne sait pas encore. Ça reste un mystère.
Ouais, j'ai une autre question qui m'est venue en t'écoutant. En fait, normalement, en termes de survie, la sélection naturelle l'a bien prouvé, plus il y a de brassage génétique, plus normalement une espèce est protégée et apte à survivre en fait. À partir du moment où c'est des groupes familiaux et où tu me dis qu'il n'y a pas ou peu de contact avec les autres familles, comment est-ce qu'on obtient un brassage génétique ?
Ah si, alors chez les fourmis, il y a un énorme brassage génétique parce que déjà les reines, alors comment se passe le cycle de vie ? Les reines, elles sont produites au printemps et c'est ce qu'on appelle les fourmis volantes. Les gens disent « Ah, des fourmis volantes !» En fait, quand vous voyez les fourmis volantes, en fait, c'est des essaims de reines. Et donc, chaque colonie va produire un essaim de reines chaque printemps qui vont s'envoler et se reproduire avec des mâles d'autres colonies. Donc là, il va y avoir un brassage génétique. Et de plus, elles vont souvent s'accoupler avec plusieurs mâles. Et elles vont garder ça dans une spermathèque, puisqu'elle vit quand même 25 ans, et elle va s'accoupler qu'une fois, la reine. Une seule journée. Donc elle a intérêt à avoir une grosse réserve quand même pour produire 20 millions d'individus. Et donc elle a une spermathèque qui lui permet de garder, ça aussi c'est assez hallucinant, c'est de garder des spermatozoïdes pendant, vivants pendant 25 ans. Ça aussi on ne sait pas trop comment en fait elle fait ça. Et donc il va y avoir un brassage génétique et surtout aussi on parle souvent que d'une reine, mais il y a énormément d'espèces de fourmis où il y a plusieurs reines qui ne viennent pas des mêmes colonies d'origine. Et elles vont se partager au début, elles vont quand même se battre un petit peu, mais après il va y avoir un certain équilibre qui va se passer. Et donc, oui, voilà, on a un brassage génétique qui fait... Et souvent, on a même des colonies où, finalement, la relation génétique, elle est presque zéro. Et on a aussi un système, par exemple, chez les fourmis, qui est absolument assez... Moi, je trouve assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle les fourmis esclavagistes. Alors, les fourmis esclavagistes, c'est des fourmis qui vont attaquer des nids d'une autre espèce de fourmis et qui vont leur piquer les bébés, quoi. Elles vont arriver, elles vont piquer toutes les larves et elles vont les prendre dans leur nid et les élever. Et ces fourmis, elles vont naître dans le nid et elles ne sauront jamais qu'elles ne viennent pas de cette colonie, alors qu'elles ne sont même pas de la même espèce. Et elles vont travailler avec les autres. Alors, ce n'est pas que les autres ne font rien et qu'elles utilisent comme esclaves. C'est un anthropomorphisme qu'ils les ont appelé les fourmis esclavagistes. Et en réalité, ces fourmis, elles vont travailler comme si elles faisaient partie de la colonie. Et elles vont même participer à des raids d'esclavage après pour aller piquer leur propre ancienne colonie sans savoir que finalement, elles venaient de cette colonie-là. Donc, c'est pour ça que dans une même colonie, et en fait, ces fourmis-là vont même se sacrifier pour... ceux qui les ont kidnappés au départ. Donc.
Oui, donc finalement, en modèle sociétal, ça ne fait quand même pas trop rêver.
Ben, disons que ces fourmis qui sont prises en esclavage, elles ne sont pas en esclavage. Elles ne sont pas plus en esclavage qu'elles seraient dans leur propre colonie. Elles font le même travail, c'est juste qu'elles le font dans une colonie qui n'est pas la leur.
Oui, mais transposer à l'espèce humaine le vol des bébés, je pense que ça...
Non, c'est ça. Mais c'est pour ça, il ne faut jamais transposer en fait, ce qui se passe chez les fourmis à l'humain. Ça n'a juste rien à voir. Rien à voir.
Audrey, tu évoquais tout à l'heure les fourmis géantes de Thème. Est-ce que la taille a une pertinence ? Est-ce qu'on connaît des colonies d'insectes sociaux, de gros insectes sociaux ? Est-ce qu'on peut imaginer des fourmilières de fourmis d'un mètre ou
Non. La plus grosse fourmi, c'est la reine des fourmis légionnaires et elle fait 10 cm, ce qui est déjà un peu costaud quand même, comme ça. C'est pas très beau en plus, hein, parce que c'est fait de ça de thorax, ça de tête, et puis tout ça, c'est l'abdomen rempli d'œufs. C'est pas très. Non, les fourmis, les plus grosses fourmis, la plupart du temps, sont des colonies beaucoup plus primitives phylogénétiquement, et elles sont très peu nombreuses. Donc, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la bull ant, qui est Paraponera. On l'a appelé comme ça parce que la douleur d'une piqûre fait la douleur d'une balle qu'on prendra en plein cœur. Et heureusement pour nous, c'est des très grosses fourmis qui font 2 à 3 cm. Mais assez costaud. Et heureusement pour nous, elles ne sont que 100 dans la colonie. Si vous marchez dessus, bon, c'est ça. Après, les plus grosses colonies connues, c'est à l'heure actuelle la colonie de fourmis d'Argentine qui a envahi toute la côte méditerranéenne. Donc ça part du Portugal, ça fait tout le tour, l'Espagne, l'Italie, la France, etc. Toute la côte méditerranéenne, c'est des milliards de fourmis. Et elle est toute petite comme ça. Alors, elle paraît assez inoffensive, mais elle a carrément mis dehors toute la biodiversité qu'il y avait quand même sur la côte littorale. Donc, c'est quand même un petit problème. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment juger l'intelligence ou la force d'une fourmi à sa taille, parce que c'est souvent les plus petites fourmis en fait, qui sont presque les plus organisées que les plus grosses fourmis.
Et est-ce qu'on comprend comment joue ce paramètre de taille ?
Alors, c'est pareil, c'est une histoire de nourrissage. Donc, il va y avoir, par exemple, des colonies de fourmis. Alors, vous avez peut-être tous entendu parler des fourmis coupeuses de feuilles qui sont en Amérique du Sud, qui transportent des feuilles comme ça et qui cultivent un champignon dans la colonie et qui font de l'agriculture. Chez cette fourmi-là, vous avez donc, c'est souvent 5 millions d'individus. Et dans ces 5 millions d'individus, vous allez avoir donc, toutes elles sont sœurs. Et il y en a qui font 1,5 mm et qui vivent dans le champignon, c'est elles qui s'occupent du champignon. Et vous allez avoir des soldats qui vont faire 2,5 cm. Et génétiquement, ils sont identiques. Au départ, c'est le même œuf. Et c'est juste une histoire de nourrissage aussi qui va en dire ça. On a besoin de soldats, donc on va nourrir nos larves. On a besoin de jardiniers, donc on va faire des petites larves, etc. Mais dans une même colonie, on va avoir toute une gamme de tailles différentes.
Avec le même patrimoine génétique. Donc, du coup, c'est vrai que cette spécialisation, moi, elle m'évoque en fait l'intérieur d'un seul organisme.
Oui, et d'ailleurs, la colonie de fourmis a souvent été traitée comme un super organisme. On appelait ça le super organisme. Même chez les abeilles, on a aussi appelé ça. Il y a des livres qui s'appellent le super organisme chez les abeilles. Parce qu'on a l'impression que vraiment, on a une spécialisation, comme on aurait une division de travail cellulaire dans notre corps, où finalement, la reine, ce serait notre appareil appareils reproducteurs. On aurait certaines fourmis qui protègent le nid, qui seraient le système immunitaire. Toutes les fourmis qui vont chercher la nourriture, qui seraient le système digestif, etc., etc. Et c'est pour ça que ça a souvent été considéré comme un super organisme, parce que la fourmi va vivre pour sa colonie et se sacrifier, donc, comme on disait, pour sa colonie. Et quand je dis sacrifier, on a ce qu'on appelle des fourmis kamikazes, qui vont littéralement exploser à la tête de leur adversaire s'il y en a eu un besoin au cours d'une guerre entre deux sociétés. Donc il y a vraiment cette idée de sacrifice et d'altruisme très très fort chez les fourmis.
Donc on parlait de modèles de société, ou on nous incite à parler de modèles de société. Tu semblais suggérer qu'il y avait en fait des modèles très très différents au sein de la même fourmilière. Tu parlais par exemple des radeaux tout à l'heure. J'imagine que l'organisation d'une fourmilière sèche, sans menace, et des mêmes individus en radeaux n'a absolument rien à voir. Comment passe-t-on est-ce qu'il y a plusieurs modèles possibles? Comment passe-t-on
Alors voilà, le problème chez les fourmis, c'est que souvent on parle des fourmis, mais il faut savoir qu'il y a 12 000 espèces de fourmis connues. Bon, sûrement, on ne les connaît pas toutes, parce qu'il y a des toutes petites cryptiques encore qu'on trouve tous les jours. 12 000 espèces, moi j'aime dire 12 000 histoires à raconter. Parce qu'on va avoir tout type d'organisation. Et on ne pourra pas toutes les raconter aujourd'hui. Mais il y en a, voilà, vous allez avoir les fourmis tisserandes, celles qui tissent, vous allez avoir les fourmis pots de miel, celles qui stockent de la nourriture dans leur abdomen. Vous allez avoir plein de caractéristiques comme ça. Et on retrouve rarement toutes les caractéristiques dans une seule espèce. Alors si par exemple on reparle de littérature et on pensait forcément au livre des fourmis de Bernard Weber, il a pris beaucoup de caractéristiques de plein d'espèces différentes qu'il a mis au sein d'une même espèce qui était Formica, qui était donc la fourmi des bois. Mais en réalité, souvent, on ne va pas retrouver toutes ces caractéristiques dans une seule colonie. Mais oui, donc les fourmis radeaux, par exemple, parce que c'est les fourmis de feu, on les appelle fourmis de feu parce qu'elles coupent les circuits électriques aux États-Unis et que leur piqûre est extrêmement douloureuse, ça brûle énormément et c'est un vrai problème. Il y a pas mal de gens qui souffrent de ces fourmis-là. Et elles sont connues pour cette espèce d'élasticité, donc elles font des boules, elles font des grappes, elles font des radeaux, mais c'est leur caractéristique qu'on ne va pas du tout retrouver, par exemple, chez les fourmis coupeuses de feuilles.
Oui, donc, comment dire, il n'y a pas que les insectes qui présentent des sociétés organisées. Les insectes présentent des sociétés super organisées avec une super spécialisation des différents individus. Mais globalement, ce qu'on va retrouver dans le monde animal, ça va être beaucoup... c'est une structure familiale, mais de moindre ampleur, en fait. La communauté des animaux s'organise pratiquement, quand elle s'organise, par famille. C'est surtout ça qu'on retrouve chez les animaux, que ce soit là, les exemples qui me viennent, c'est chez les mammifères marins, c'est chez les éléphants, la structure est familiale. Donc j'ai envie de dire, chez les insectes sociaux, la structure est familiale aussi. La société est beaucoup plus grande, juste parce que la famille est beaucoup plus grande.
Oui, il existe en réalité un seul mammifère qui est classé comme eusocial, comme les fourmis, c'est le ratope. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ratope. C'est un animal absolument horrible, visuellement. Alors, il faut imaginer un rat. Vous lui enlevez les poils. Voilà, ça fait un rat nu, déjà. Et vous lui mettez les dents à l'extérieur de la lèvre, pas à l'intérieur de la bouche, mais à l'extérieur de la bouche, sur la lèvre, comme ça. Et donc, c'est des espèces qui vivent sous le sol, en Afrique du Sud. Et ils ont une reine. Réellement. Ils ont un rat dans la colonie qui est beaucoup plus gros que les autres, qui a même une malformation au niveau de la colonne vertébrale, parce que tellement gros que la colonne doit pouvoir se plier pour pouvoir passer dans les galeries. Et c'est la seule qui va se reproduire. Et elle va générer plus de 200 à 300 ouvriers. C'est vraiment aussi appelé comme les fourmis des ouvriers. Et alors le ratope, il est assez fascinant parce que donc déjà, il a cette organisation qu'on va retrouver que chez les insectes sociaux, et alors que c'est un mammifère. Et après, c'est un organisme vivant qui n'attrape pas le cancer. Alors, c'est pour ça aussi que les gens adorent. Et pour la petite anecdote, c'est le seul animal aussi qui va aussi vite en avant qu'en arrière, quand il marche en reculant. Parce qu'en fait, dans les galeries, il doit pouvoir reculer assez facilement chaque fois que la reine passe. Et donc, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment l'histoire du cancer qui passionne quand même plus les chercheurs. Mais c'était quand même pour l'anecdote. Et donc, c'est la seule société de mammifères eusociale où on a une spécialisation de la reproduction et où les autres individus sont vraiment réellement stériles. Alors comment ils sont rendus stériles? Là, ce n'est pas une histoire de nourriture, c'est une histoire où la reine les domine complètement. Donc en fait, et ça existe aussi chez les fourmis très primitives. Au départ, quand on a les premières colonies de fourmis, il n'y avait pas de reine morphologiquement différente des autres. Il y avait juste une fourmi qui tapait sur les autres beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'elle se reproduisait. En fait, elle inhibe les autres. Elle sent vraiment la phéromone un petit peu. Et en plus, à chaque fois qu'elle voyait une autre fourmi, elle la boxe. Et bien, c'est exactement ce qu'on va trouver chez les ratopes. La reine, en fait, va inhiber les autres. Et du coup, en fait, leur entre guillemets, tout leur système reproductif va s'atrophier un petit peu. Elles vont pas pouvoir se reproduire. Et on retrouve ça chez les... C'est beaucoup... c'est après, dans l'évolution, où on va avoir cette spécialisation vraiment morphologique de la reine énorme et toutes les autres ouvrières vraiment stériles. Elles ont même plus d'ovaires, les fourmis, chez certaines espèces. Mais au départ, les espèces les plus primitives, tout le monde est capable de se reproduire. C'est vraiment juste une histoire de hiérarchie qui se met en place où il y a une fourmi qui tape sur les autres. Si vous l'enlevez, ben vous allez avoir une autre qui va finir par taper sur les autres. Donc, on va avoir... Et donc ça, c'est les toutes premières sociétés. Et c'est qu'après que vraiment s'est passée une spécialisation où la reine à elle seule, finalement, elle n'a plus besoin de taper sur les autres. Elle est dans sa chambre royale et c'est juste que toutes les autres, elles sont stériles.
Mais ça, ce système hiérarchique par la loi du plus fort, entre guillemets, on le retrouve aussi chez les poissons, notamment chez le poisson clown. Hein, à la tête de la hiérarchie dans l'animal, là, il y a plein de poissons clowns. À la tête, il y a une femelle dominante qui tape sur le mâle pour l'empêcher de devenir une femelle. Voilà, donc avec ce mâle-là, elle se reproduit pour faire des jeunes que d'autres poissons clowns mâles, immatures, incapables de se reproduire, s'occupe de ses jeunes. Si jamais il arrive un malheur à la femelle, le mâle devient la femelle dominante, l'un des mâles immatures devient le mâle mature et on recommence. Voilà. Donc là, il y a en plus un changement de sexe qui est lié à la hiérarchie en fonction de est-ce qu'il y a quelqu'un plus fort que moi ou pas.
Ouais, alors ça n'existe pas chez les fourmis, il n'y a pas de changement de sexe. Chez les fourmis, moi je travaille sur une fourmi clonale qui est extrêmement primitive, qui s'appelle Platytheria. Et donc chez cette fourmi, ils ont carrément en fait supprimé le mâle. En réalité, les fourmis se clonent. Elles font de la parthénogénèse. Donc là, pour le coup, on a une uniformité génétique complète. Il n'y a pas de brassage génétique. En fait, à chaque fois que... Et donc là, dans ces sociétés-là, c'est des sociétés assez petites, 200 fourmis. Tout le monde peut se reproduire, mais on a encore quand même ce système hiérarchique qui se met en place. Tout le monde pourrait se cloner, mais il n'y en a qu'une qui se clone.
Est-ce qu'il y a des réorganisations génétiques ?
Alors bien sûr, il y a des mutations quand même chez les fourmis. Donc quand on regarde la proximité génétique, qui devrait être de 1, si c'était des clones parfaits, elle est de 99%. Donc on a un petit pourcent quand même de mutations. Mais ça, c'est les fourmis clonales, c'est quand même une rareté. La plupart du temps, les fourmis ont des mâles quand même.
Alors ça a été très utilisé en science-fiction, hein. Je pense notamment à Star Wars, l'idée de clones, notamment pour faire une armée. Et ça a été démonté avec brio par John Scalzi, qui est invité ici sur ce festival, dans Le Vieil Homme et la Guerre, où en fait il explique qu'au départ, les humains, forts de Star Wars, sans doute conquèrent l'espace avec des clones, et qu'un jour ils rencontrent une espèce qui refuse l'affrontement, et qui un jour balance un virus, tous les clones, bip. Hop, voilà, emballé, c'est pesé. À partir de ce moment-là, ils n'utilisent plus les clones.
Non, c'est ça. Le problème d'une proximité génétique et d'une proximité physique aussi, c'est la probabilité de récupérer des virus, des bactéries, etc. Donc les fourmis, elles ont ce qu'on appelle une immunité sociale. C'est-à-dire qu'elles s'auto-nettoient. C'est pour ça que vous voyez toujours les fourmis en train de se nettoyer ou en train de se nettoyer les unes les autres. Elles sont toujours en train de s'enlever les parasites. Parce qu'elles vivent trop, en fait, finalement, trop proches les unes des autres. Et une infection, et ça peut vraiment tuer toute une colonie très rapidement.
Andoris, tu parlais tout à l'heure de fascination et voire à la limite du dégoût. Mais est-ce qu'en tant qu'auteur, cette fascination peut être aussi une inspiration pour toi ? Est-ce que tu joues avec ce genre d'idées et d'émotions ?
Alors, toutes les sociétés, là, c'est un abus de langage de parler de société. Tous les modèles animaux, en fait, tous les modèles de fonctionnement animaux, voire même les modèles de fonctionnement collaboratif végétaux sont une source d'inspiration. Je passe un temps fou et en même temps c'est très agréable pour moi, c'est pas du tout du travail, à aller lire les dernières découvertes, les papiers de vulgarisation sur qu'est-ce qu'on a trouvé dans le monde animal, dans le monde végétal. C'est une source d'inspiration extraordinaire. Là je pense à un des derniers textes que j'ai lu avec les séquoias fantômes aux États-Unis, où en fait il y a un botaniste qui étudie les séquoias, qui a trouvé des séquoias entièrement blancs, sans chlorophylle du tout. Alors, on va retrouver une proximité. Sans chlorophylle du tout, donc normalement ils devraient être morts. Et ils ne le sont pas. Et en faisant des recherches, en fait, il s'est rendu compte que ces séquoias avaient à l'intérieur d'eux une quantité phénoménale de métaux lourds. Mais vraiment, il devrait être mort, deuxième. Non seulement il ne peut pas produire son énergie, mais en plus, il est complètement empoisonné. Donc, mais il est résistant, ça l'empêche de faire de la chlorophylle, donc du coup, il est blanc, entièrement blanc, ou partiellement d'ailleurs, hein, ça dépend. Mais voilà, et il accumule les métaux lourds, il accumule les métaux lourds. Et ce scientifique s'est rendu compte qu'en fait, ce séquoia blanc dépollue le sol pour les séquoias autour qui le nourrissent en contrepartie. Donc là aussi, on a un modèle de collaboration qui est assez extraordinaire.
Ah oui, alors on va retrouver des choses comme ça, par exemple chez les fourmis, on a des courses à l'armement. Et donc on a une fourmi qu'on appelle la fourmi vampire ou Dracula, la fourmi Dracula. Et en fait, elle a développé des mandibules, mais vraiment, alors les mandibules, c'est les dents des fourmis, et qui sont énormes, mais du coup, elles ne sont pas capables de se nourrir parce qu'elles sont tellement loin que la nourriture, elle ne peut pas arriver à la bouche. C'est complètement stupide, mais... Et du coup, elle va aller chercher de la nourriture à l'extérieur et elle va la donner aux larves, donc à leur bébé. Les larves vont la manger. Et là, par contre, avec leurs mandibules, elles peuvent pincher les larves comme ça et elles sucent carrément l'hémolymphe des larves. Donc, sans leur bébé, elles ne peuvent pas vivre. Donc, c'est une espèce de collaboration qui fait que là, elles n'ont pas le choix de s'occuper en plus de leur jeune sœur parce qu'elles ont une dépendance. Et chez les reines esclavagistes, on va avoir exactement la même chose. Elles ont des mandibules qui sont tellement acérées qu'elles, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs larves. Si elles s'en occupent, elles percent la peau des larves et les larves meurent. Et du coup, elles ont trouvé ce système où elles rentrent dans des colonies. Elles rentrent toutes seules. Elle se passe inaperçue parce qu'elle a une, elle a pas d'odeur, en fait, cette reine esclavagiste. Donc, elle passe inaperçue. C'est vraiment la fourmi ninja. Elle rentre dans le nid. Personne ne la voit. Et quand elle arrive dans la chambre royale de la fourmi qu'elle veut attaquer, elle décapite la reine, littéralement. Elle la décapite. Et là, elle va se frotter contre elle. Elle va se frotter dans le sol où vivait cette reine et elle va du coup prendre l'odeur comme ça de la reine d'avant. Et du coup, les ouvrières du nid ne vont pas voir la différence entre la reine décapitée et cette nouvelle reine. Et elles vont élever les bébés de cette reine. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir en fait se reproduire parce que c'est ces fourmis-là qui vont s'occuper de ces bébés. Donc en fait, on va avoir comme ça des espèces de dépendances qui vont se mettre en place. Et chez les fourmis, il y a des histoires comme ça hallucinantes où on a l'impression qu'on va rentrer dans un cul-de-sac un peu évolutif. Et non, il y a toujours une espèce de solution qui émerge... Il y a tellement d'histoires.
Ce qu'on retrouve chez les insectes, ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui est mis en évidence avec le séquoia, notamment, entre autres, hein, c'est que dans un système de stress, dans un environnement de stress ou dans un environnement qui met une certaine pression sur l'espèce, la solution que trouvent les espèces et qui marche, c'est la collaboration. C'est pas la compétition, c'est la collaboration. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver à toutes les échelles dans le monde vivant. Hein. Donc, chez les végétaux, on va retrouver ça chez les animaux, que ce soit des vertébrés ou non. C'est vraiment cette idée de collaboration. Et puis, donc, du coup, après, il y a certaines espèces ponctuelles, finalement, qui en ont fait un mode de vie permanent.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est le sujet du livre de La loi de la jungle, La coopération, l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement, qui explique qu'en situation de crise, c'est souvent la coopération qui va bien mieux marcher que la compétition. Et il explique que finalement, si on regarde la nature, dans toute, que ce soit de la bactérie jusqu'à l'homme, la coopération a toujours vraiment été un système de fonctionnement qui vraiment a toujours pris le dessus. Et. Il dit que la coopération émerge souvent dans des temps difficiles, c'est-à-dire quand il va y avoir un manque de ressources, etc. Et il explique que dans les sociétés humaines, avec la révolution industrielle, on a vécu un tout petit peu dans l'opulence et l'égoïsme a pris le dessus sur la coopération. Et il dit que face aux grands problèmes écologiques auxquels on va faire face, il faut absolument abandonner finalement ces comportements égoïstes pour aller vers la coopération à nouveau, parce que c'est la seule façon dont on va s'en sortir en réalité. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement intéressant parce que c'est Pablo Servigne est aussi un myrmécologue de formation. Il a fait son doctorat sur les fourmis et il s'est extrêmement inspiré des sociétés de fourmis qui en effet on montre une énorme coopération et dans des situations de crise vraiment il est très rare qu'une fourmi périclite. Et d'ailleurs, le sujet aujourd'hui était cette colonie de fourmis qui est tombée dans un bunker, c'est ça ? Et où on montre qu'elles vont quand même continuer à survivre. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une fourmi, même si vous enlevez la reine, la colonie, elle continue. Mais c'est elle ne s'arrête pas quand la larve s'en va.
Par rapport à ce fait divers, ce n'était pas une colonie. C'est ça qui était fascinant.
C'est des morceaux. Voilà.
C'est des fourmis de différentes colonies qui étaient parties chercher de la nourriture, des choses comme ça, qui sont tombées dans ce bunker. C'est des fourmis appartenant à différentes espèces. Et une fois retrouvées bloquées là, elles se sont dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Et au lieu d'aller mourir chacune dans leur coin, effectivement, elles se sont réorganisées parce qu'à un moment, survivre, c'est mieux.
C'est ça, et ce qui arrive beaucoup au laboratoire quand on prend des colonies, parce que nous, dans la nature, on prend trouver la reine, c'est vraiment le jackpot. Quand on collecte des fourmis, parce qu'elle est souvent super cachée, et puis dès qu'on met le premier coup de pelle, la plupart du temps, elle est dans une chambre secrète, on ne sait pas où. Et du coup, on récupère que les ouvrières souvent au laboratoire, mais les ouvrières n'ont pas besoin de la reine pour fonctionner. C'est juste qu'au bout d'un moment, mais votre colonie va péricliter parce qu'il ne va plus avoir production d'œufs, et du coup, mais vous pouvez garder une colonie de fourmis sans reine plus d'un an, une année ou deux ans au laboratoire sans problème, et elle fonctionne tout à fait comme s'il y avait la reine.
Je suis un peu surpris, tout à l'heure, on parlait, enfin au début de cet entretien, vous sembliez toutes les deux assez d'accord sur l'idée que les sociétés d'insectes sociaux ne pouvaient pas être des modèles ou étaient des modèles assez horrifiques pour les sociétés humaines. J'entends maintenant parler de coopération, de collaboration, de valeurs qui sont plutôt positives. C'est une dimension dont on pourrait aussi s'inspirer ou c'est tellement insectoïde que ce n'est pas adaptable à l'homme ?
Non, là, c'est très inspirant par contre, je pense. Et puis, alors là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que à un moment, il va falloir sortir du tout égoïste. Hein, on n'a jamais fonctionné comme ça. Quand on remonte dans l'histoire de l'espèce humaine, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement récent. Jusque-là, quand on remonte vraiment loin, hein, le mode de survie de l'individu, il n'est pas solitaire, il est tribal. Hein, il est tribal et familial, avec des interactions ponctuelles avec d'autres individus, des échanges de patrimoine général. Génétique, voilà. Mais par contre, il est tribal. On n'a jamais survécu. L'espèce humaine n'a jamais survécu de façon isolée, individuelle. Donc, il va falloir revenir à ce système. Par contre, en fait, moi, ce qui m'horrifie dans les sociétés d'insectes et ce qui, à mon avis, n'est pas transposable chez l'être humain sans poser un énorme problème, c'est toi tu te reproduis, toi tu te reproduis pas. Et notamment, d'ailleurs, on va te déterminer au moment de ton embryogenèse pour que tu te reproduises pas. Ça me pose un problème éthique. Oui. Mais en fait, il y a des côtés positifs dans les sociétés d'insectes dont on a le droit de s'inspirer et c'est même vivement conseillé. Et il y a d'autres côtés où on a le droit de se dire est-ce que c'est moral, est-ce que j'ai envie de créer une société pour qu'elle fonctionne et pour que l'humain survive dans laquelle effectivement le contrôle des naissances et l'autorisation de reproduction est chapeauté par la société globale, quoi.
C'est ça, en fait, c'est des systèmes. En fait, on peut trouver plein de systèmes de fonctionnement qui vont marcher. Les fourmis, c'en est un, mais il y en a sûrement plein d'autres. Par exemple, chez les guêpes, ça marche différemment. Chez les abeilles et chez les termites, ça marche différemment aussi. On a vraiment, par exemple, ce couple royal qui va vivre ensemble dans la même. Alors, ce n'est pas une histoire romantique, hein, parce que le mâle n'a pas le choix, il ne peut pas sortir. Mais ils sont enfermés dans une chambre royale. Et en fait, la reine, au départ, elle fait la même taille que le roi. C'est à peu près 5 mm, 6 mm. Et puis finalement, elle va faire 12 cm. Et lui, il va toujours faire 5 mm. Donc, il doit tourner autour de la reine comme ça, tac, 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 tous les jours pour se reproduire avec. Il est enfermé dans une chambre royale. Et dans la chambre royale, les trous sont tellement petits qu'il n'y a que les ouvriers qui peuvent rentrer pour nourrir le couple royal. Et c'est fait aussi petit pour pas que le mâle s'en aille. Quitte la reine. C'est réel. Et donc, chez les termites, on va avoir ce système fonctionnement où on a des mâles et des femelles et où, finalement, il y a plein d'individus qui pourraient se reproduire parce que chez les termites, à la différence des fourmis et des abeilles, c'est des insectes hétérométaboles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hétérométabole ? C'est-à-dire qu'ils vont faire des mues successives. Alors, chez les fourmis et chez les abeilles, c'est comme chez les papillons. Vous avez une larve et puis d'un coup, il va y avoir métamorphose et vous avez l'adulte. Chez les termites, c'est pas du tout ça. Vous avez un bébé termite qui va ressembler exactement à la taille à ce qu'il va avoir à l'adulte. C'est juste qu'il mue à chaque fois. Et du coup, à chaque mue, il peut changer de rôle. Il peut dire, ah ben voilà, moi je vais soldat maintenant. Oh, je vais devenir reproducteur. Donc il y a quand même encore des choix. Alors que chez les fourmis, une fois qu'il y a eu une métamorphose, c'est fini. Le choix, il est fait. C'est ouvrier ou c'est reine. Alors que chez le termite, il y a des possibilités de régression, de revenir en arrière, etc. Et ça marche aussi, les sociétés de termites. Vous savez très bien, si vous avez des maisons en bois, que ça marche très bien, les sociétés de termites.
Tu as employé à plusieurs reprises ce terme de choix. Est-ce que c'est aussi est-ce qu'on l'entend dans le même sens que pour les humains ?
Quand j'utilise choix, c'est plus un abus de langage. Comme par exemple chez les fourmis, on parle beaucoup de choix collectif, mais en réalité, c'est pas des choix, c'est ce que nous, c'est-à-dire qu'on leur donne des options. Elles vont se focaliser sur une option, donc nous, on va appeler ça un choix. Mais en réalité, la fourmi elle-même ne fait pas un choix. Par exemple, c'est tout ce qui est toute la thématique qu'on appelle décision collective chez les fourmis. Alors, si vous donnez aux fourmis deux sources de nourriture, une qui est très très loin et une qui est très proche, vous allez voir que très vite, les fourmis vont se focaliser sur la nourriture qui est la plus proche. Alors, l'idée anthropomorphique dit, ah oui, ben, elle a essayé deux chemins, elle a bien vu qu'il y en avait un qui était plus court. Pas du tout. Les fourmis, elles ne comparent pas. Il y en a même qui n'ont jamais été au chemin long, il y en a qui n'ont jamais été au chemin court. En réalité, c'est que comme elles laissent des phéromones toujours sur les chemins, celle qui a laissé sa phéromone sur le chemin le plus long, le temps qu'elle revienne, il y en a deux déjà qui ont pu faire le chemin entre le nid et la source qui est la plus proche. Et du coup, comme elle préfère les phéromones plus concentrées, c'est ce chemin qui va être amplifié. Et donc, on va avoir la sélection d'un chemin le plus court. Mais il n'y a pas eu de sélection ou de choix, parce qu'en fait, la fourmi ne fait juste que suivre des phéromones. Et c'est juste par un système d'amplification, ce comportement de « je suis, je renforce, je suis, je renforce » qui fait qu'on a une sélection du chemin le plus court chez les fourmis. Et nous, c'est ce qu'on appelle donc, dans notre jargon l'intelligence collective, parce que c'est une décision qui va émerger du groupe, mais qui n'est pas codée au niveau individuel. La fourmi, elle, toute seule, n'est pas capable de le faire. C'est juste par le groupe et par la répétition d'un comportement comme ça qui est amplifié, où on va avoir l'apparition de cette décision collective. Et donc, chez les fourmis, vous allez avoir la même chose dans tout ce qui est construction du nid, ou même chez les termites. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les termitières en Afrique, ça peut faire 6 mètres de haut, et c'est construit par des ouvriers qui sont 2 ou 3 millimètres. Donc, même nous, la plus grosse tour, elle est à Dubaï, et elle fait juste la moitié de la taille de ce que construisent les termites à leur échelle de taille. Et ils ne sont pas du tout conscients. Ils font, si vous ouvrez cette termitière, c'est des réelles cathédrales à l'intérieur. Il y a des espèces de piliers, ils sont tous répartis de manière uniforme. On a l'impression qu'il y a un géomètre qui a tout calculé. Or, pas du tout. C'est un système où la termite, elle arrive, elle prend des boulettes de terre, elle met de la salive dedans, donc elle mâchouille, elle pose sa boulette sur le sol, et il y a une autre termite qui passe à côté, qui dit « Ah, c'est marrant, moi aussi j'ai une boulette, je vais la mettre là. » Et donc vous allez avoir deux boulettes. Et puis il y a une troisième qui est thermique qui fait « Ouais, ça sent vachement la salive ici, je vais poser ma boulette aussi. » Et donc petit à petit, vous avez un agrégat. Et par contre, personne ne va poser sa boulette à côté parce que ça sent mieux ici. Par contre, une fois qu'on est à 10 cm plus loin, on ne la sent pas, la petite boulette qui est là. Du coup, on va mettre sa petite boulette là à 10 cm et on va avoir deux piliers et il n'y aura jamais un pilier entre les deux parce qu'il y a toujours un pilier qui va attirer la boulette plus que l'autre et vous allez avoir des piliers comme ça de manière régulièrement disposée. Et c'est exactement la même chose chez les rayons d'abeilles qui sont parfaitement, vous savez, symétriques. C'est vraiment des questions de ce qu'on appelle la stigmergie, c'est-à-dire que les fourmis et les termites et tout ça, ils ont tendance à se répéter. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait ça, moi je vais faire pareil. Et c'est comme ça qu'émergent ces espèces de magnifiques structures. Et c'est vraiment par un comportement répétitif. Le termite, il n'a pas idée de ce qu'il est en train de construire. Hein. Lui, il a juste fait une boulette qu'il a posée. C'est tout. Mais en fait, c'est cette répétition. Ben, si vous avez des millions de termites qui font la même chose, ben, vous avez un pilier. Ou dans...
Ça aussi, ça m'évoque, ça me rappelle quand même vachement l'activité cellulaire à l'intérieur d'un organisme, en fait, où les cellules n'ont pas conscience non plus de se déterminer vers tel ou tel rôle. C'est juste, tiens, la copine à côté, elle s'est transformée en cellule musculaire, je vais faire la même chose, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est une action de mimétisme, en fait, avec les individus les plus proches. Donc,
c'est ça. On appelle ça de l'auto-organisation, en fait. C'est vraiment l'inverse de la centralisation, c'est l'auto-organisation.
Sur ce, je suis tenté de. On pourrait continuer pendant. Vous écouter pendant des heures, mais je suis tenté de donner la parole à la salle. J'imagine qu'il y a des tas de questions. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ?
Merci. C'est passionnant. Juste un exemple de dans la SF de société inspirée des insectes, c'est les Borg dans Star Trek. Les Borg dans Star Trek. Voilà.
Oui, complètement. Et dans Starship Trooper aussi, on retrouve le même genre de système. Mais j'avais le cerveau vide, là, tout à l'heure, et tout le matin.
Bonjour. Je voudrais signaler que Napoléon, son emblème, c'était justement l'abeille. Donc, ce qui prouve que l'insecte plaisait beaucoup à notre système politique. Voilà, ma question. Est-ce qu'on peut développer des algorithmes formiques basés sur les fourmis pour faire, par exemple, améliorer la circulation des informations sur le web ?
Oui, ça a été déjà fait. Surtout pour le premier algorithme fourmi, il a été appliqué à l'agent de commerce. Vous savez, c'est ce problème où vous devez vous déplacer en France et vous devez rejoindre plusieurs villes. Et si vous devez chercher, en fait, quel est le chemin le plus court pour rejoindre, par exemple, 20 villes, c'est extrêmement compliqué mathématiquement. Alors qu'avec un algorithme fourmi de suivi et de dépôt de phéromones, ça prend 2 secondes. Donc, en fait, les algorithmes fourmis, c'est quelque chose qui existe réellement. Et il y a même des conférences entières qui sont consacrées aux gens qui font de la modélisation basée sur le comportement des fourmis. C'est des systèmes, en fait, de modélisation distribuée, qu'on appelle.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Ah.
je vois pas.
Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est, je pense, une inspiration dont on a su profiter. C'est tout ce qui va être trophallaxie ou chez les Messors Barbarus, le fait de se passer du pain de bouche en bouche. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de nourrir une autre fourmi en lui crachant un petit peu ce qu'on a prédigéré. Finalement, depuis quelques siècles, on le fait un petit peu avec tout ce qui va être restauration, de plus en plus livraison à domicile, donc un gain de temps pour finalement continuer à produire un petit peu plus. Ces fourmis le font depuis des millions d'années et on a su un petit peu profiter de ce modèle-là. Est-ce que ça vous inspire quelque chose en termes de science-fiction ou ce genre de choses ?
Alors, effectivement, il y a ce système. C'est un système qui est relativement ancien. Je pense pas que ce soit quelque chose de récent avec l'émergence de la restauration, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les, chez les animaux, d'une manière générale, avec le nourrissage des petits. Hein, n'importe qui a vu une mouette nourrir ses petits, ou même un faucon, etc. C'est dans le nourrissage des petits, on se sert beaucoup de ça. Les mammifères se sont détachés de ça parce que tout simplement, ils ont créé un autre système pour nourrir les petits, mais effectivement le concept d'apporter la nourriture pour permettre à l'individu qui est nourri de faire autre chose, c'est vraiment un système qui est mis en place à différentes échelles dans les sociétés. Les insectes ont cette particularité qu'ils peuvent se nourrir pour des adultes, en fait, pas forcément que des petites. Chez les fourmis mielifères, par exemple, elles peuvent pas bouger. Hein. Elles ont un abdomen qui est rempli de miel. Elles peuvent pas bouger. C'est les autres qui les nourrissent pour qu'elles continuent à accumuler les réserves. Mais chez les adultes, oui, c'est quelque chose de relativement récent. Le nourrissage des petits, par contre, c'est quelque chose de très, très, très ancien. En termes de science-fiction, il y a plein de choses qui pourraient être inspirantes, pas forcément que le nourrissage, parce que, mine de rien, en fait, c'est pareil. Je suis en train d'essayer de visualiser. Ça va être un petit peu terrible d'imaginer des adultes fixés sur leur siège avec des gens qui viennent les nourrir. Et moi, je suis pas sûre.
Comme dans Wall-E.
Bonjour, j'avais une question. Je suis ici.
Ah.
Désolé, avec les spots, on vous voit très mal, effectivement.
Ah, bon, désolé. Pour revenir sur les fourmis, vous parliez par rapport au nourrissage de la production de tel ou tel type de fourmis. Comment l'info remonte ? Par exemple, il y a une bataille et on perd X pourcentage de la colonie. Est-ce qu'il y a des superintendantes qui font circuler l'info ou est-ce qu'il y a une espèce de radio fourmi avec un bruit ambiant de phéromones qui fait remonter toutes les infos à la reine ?
Non, c'est le besoin à la tâche, en fait. Par exemple, si on enlève... Alors moi, c'est une expérience que j'ai déjà fait au laboratoire parce que je travaille sur la nutrition chez les fourmis en particulier. Et par exemple, si vous prenez une colonie et vous enlevez tout ce qu'on appelle les fourrageurs, c'est-à-dire les récolteuses, celles qui vont dehors, et vous laissez que des nourrices. Vous laissez que les fourmis qui sont la plupart du temps un petit peu grasses, qui sont dans la colonie. Vous allez voir qu'au début, il ne se passe rien du tout. Mais vraiment, rien. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Il faut attendre 3 semaines... pour qu'il y ait une fourmi qui dise quand même, ça fait un moment qu'on n'a pas reçu à manger quand même, et qui commence à sortir. Et on a montré qu'il fallait qu'elles perdent leurs réserves. Les récolteuses, en réalité, elles ont 5% de gras, ce qui est très très faible. Elles sont finalement tout le temps borderline avec la mort. Et c'est pour ça qu'elles sont motivées à aller chercher à manger. Les nourrices, elles sont 30% de gras. Donc il faut attendre finalement qu'elles perdent leur gras pour qu'elles se disent « Ah, peut-être qu'on aille fourrager. » Si on fait l'inverse, par contre, on met une colonie, on enlève toutes les nourrices et on met que des fourrageurs, ça prend pas 24 heures pour que 90% des récolteuses restent au lit et n'aillent pas récolter. Donc, en fait, c'est un système, la division du travail, ça va vraiment être en fonction de l'état nutritionnel et de l'état physiologique des fourmis. Et donc, elles vont très vite réagir. S'il n'y a plus de récolteuses, elles vont en créer des nouvelles. S'il n'y a plus de nourrices, elles vont en créer des nouvelles. Et il y a des besoins comme les nourrices, parce que les larves appellent. Elles ont vraiment, il y a une espèce de cri de la larve qui va être beaucoup plus fort que la nourriture si vous avez mis que des nourrices, parce que vraiment, elles ont pas faim, en fait, donc elles ne sortent pas. Ça va prendre 3 semaines pour que les réserves diminuent de la colonie et créer des nouveaux fourrageurs. Donc ça va dépendre de la tâche, cette flexibilité. Et quand, par exemple, pour la création, la reine peut être stimulée à pondre par les ouvrières. Mais voilà. Il y a quand même beaucoup de mécanismes qu'on ne connaît pas très très bien, mais on arrive par des corrélations à avoir des petits résultats.
Je vais reprendre l'analogie avec les cellules d'un organisme. À l'intérieur d'un organisme, la cellule, elle va se diviser par défaut. Et puis, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de place, bêtement, elle arrête de se diviser. Elle reçoit des signaux des voisines en disant bah, « Vas-y, c'est bon, là, on est serré. » Et donc, elle arrête de se diviser parce qu'elle reçoit des signaux inhibiteurs. Donc, je pense que je ne sais pas si ça fonctionne pareil chez les insectes, mais c'est une question qui m'interroge, parce qu'effectivement, quand il y a un manque fonctionnel, on imagine très bien que ce manque est remplacé, et il est rempli par de nouvelles fourmis ou une déspécialisation des fourmis. Par contre, est-ce qu'à un moment, la colonie, elle atteint un maximum et qu'elle dit là, on se calme un peu ou...
Déjà, c'est la taille du nid. Alors après, il faut voir que c'est toujours différent en laboratoire. Dans la nature, c'est quand même beaucoup plus rude, les conditions qu'au laboratoire. Au laboratoire, elles ont à manger tous les jours. Donc finalement, en laboratoire, si le nid devient trop grand, en fait, elle déménage pour chercher une place ailleurs. En réalité, sur le terrain, elles agrandissent le nid en fonction de la taille de la colonie. Mais il faut savoir que chez des fourmis très primitives, où le développement larvaire est très très long, où les larves vont demander beaucoup de nourriture, en fait, ça va être une croissance qui est extrêmement lente. On va voir que, par exemple, chez les fourmis d'Argentine, cette fourmi invasive, c'est un petit peu comme des fourmis jetables. C'est des fourmis extrêmement fragiles, très faciles à produire. Vous en avez une en 2 semaines. De l'œuf à l'adulte, ça prend à peine 2 semaines. Donc ça va vraiment dépendre des espèces. Et les fourmis d'Argentine, c'est tout simple. Dès qu'il y a trop de monde, elles déménagent juste à côté. Et c'est comme ça qu'on a un nid qui fait des milliers de kilomètres. Et c'est les mêmes fourmis qui ont juste bouturé. Et en plus, elles ont enlevé l'étape de l'essaimage qui est extrêmement risquée pour les reines parce que la plupart du temps, elles sont becquetées par les oiseaux. Elles partent à pied. Donc en fait, c'est beaucoup moins risqué. Et en fait, les reines, ce qu'elles font, c'est qu'elles se reproduisent au nid et elles partent à 10 cm et créent une nouvelle colonie. Elles font comme ça. Et c'est comme ça qu'elles ont fait toute la côte méditerranéenne. Donc ça va défendre beaucoup des espèces, toujours.
Bonjour, alors déjà, je voulais vous remercier, je suis juste à côté.
Ah.
Je voulais vous remercier, je trouve cette conférence proprement passionnante. Maintenant que je vous ai remercié, je voulais vous tacler, puisque vous vous êtes lavé les mains, si je puis dire, je suis un peu méchant, mais du modèle de Huxley, donc du meilleur des mondes par caste. Mais en fait, la société humaine est organisée sur une division du travail extrêmement forte. Division internationale, les vêtements que vous portez ou les miens ont de grandes chances d'être produits en Asie du Sud-Est, par exemple, mais y compris division du travail à l'échelle nationale. Moi, je travaille dans un hôpital actuellement. 95% des personnels soignantes, c'est des femmes afro-caribéennes ou arabes ou berbères, et c'est extrêmement net, alors que les médecins sont plutôt des hommes, etc., des hommes blancs. Donc il y a une division du travail qui est extrêmement forte, quasiment un système de caste, mais qui n'est pas, évidemment, qui est moralement pas présenté comme tel. Et voilà, mais finalement, on a un système par rapport un peu à tout ce que vous avez décrit sur les différentes espèces de fourmis, qui n'est pas si éloigné, à mon avis, de ce qu'on a actuellement, y compris dans ses aspects les moins souhaitables et moins heureux, si on peut dire.
Alors, je suis d'accord sur tout ce qui est je suis complètement d'accord sur tout ce qui est déterminisme social dans notre société. Par contre, ça n'est pas comparable puisque ce n'est pas un déterminisme à l'embryogenèse, ce n'est pas un déterminisme génétique, en fait. Ce n'est même pas un déterminisme... Alors là, oui, effectivement, ça va être social. C'est une pression sociale. Il va y avoir les femmes qui vont être orientées vers tel ou tel métier plutôt que tel autre. Il va y avoir un déterminisme en fonction de la couleur de peau. Oui, effectivement. Mais on peut pas dire qu'il y ait une modification structurelle de l'individu pour accomplir les tâches en question. Donc, je pense que c'est plutôt une conséquence de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entré dans un système égoïste dont on parlait tout à l'heure, je ne m'occupe que de mon bien-être. Donc, du coup, si j'ai besoin, moi, d'être bien, je ne vais pas me préoccuper si les autres, c'est moins bien, en fait. Donc du coup, cette distribution par caste, elle est aussi égocentrée, entre guillemets. C'est pas une organisation extérieure, c'est pas une organisation structurelle orientée par la génétique ou par le système. C'est vraiment quelque chose qui est une distribution, une conséquence du comportement égocentré, je pense.
Alors moi, là où je vais faire une réaction, c'est que chez les fourmis, il y a une division du travail, mais tout le monde est logé finalement à la même enseigne. Tout le monde rentre au nid, partage le même nid et partage les mêmes ressources. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, c'est beaucoup plus dur. notre division du travail. Je veux dire, alors chez les fourmis, il y a quelque chose en plus qui est complètement opposé à la nôtre et on pourrait peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être pas s'en inspirer, mais les fourmis, c'est un polyéthisme beaucoup d'âge, c'est-à-dire que c'est les fourmis les plus âgées qui vont faire les tâches les plus risquées. C'est-à-dire les fourmis que vous allez voir dehors, que vous observez dehors, c'est les fourmis les plus vieilles de la colonie. Nous, on fait exactement l'inverse. On envoie nos jeunes au front. On n'envoie pas nos vieux. Alors peut-être parce que nos personnes âgées ont aussi la connaissance, c'est quelque chose de précieux, etc. Mais en tout cas, chez les fourmis qui vont faire les tâches qui sont vraiment les plus risquées, qui sont en fin de vie, donc la récolte, c'est là où c'est sortir du nid, c'est prendre un risque chez les fourmis. Tant que vous êtes dans le nid, vous êtes finalement assez en sécurité. C'est les fourmis les plus âgées qui finalement vont faire ces tâches-là. Mais sinon, après, au sein du nid, il n'y a pas vraiment des fourmis qui sont plus, je dirais entre guillemets, je vais faire l'anthropomorphisme, mais qui sont plus malheureuses que d'autres. Finalement, tout le monde participe, tout le monde partage les mêmes ressources. Il n'y en a pas une qui reçoit plus à manger que l'autre. Il n'y en a pas une qui a une grande loge et une qui a une petite loge. Tout le monde parle. Donc, c'est pas, pour moi, c'est une division du travail qui est beaucoup plus flexible et sympa que celle qu'on a, nous. Je préférerais peut-être la division du travail des fourmis.
Mais non, c'est le système de reproduction et de déterminisme génétique, moi, hein, qui me fait frémir.
Je crois que le frémissement d'Andoris sera le mot de la fin. Merci à nos deux oratrices. Merci à vous tous.